Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le réchauffement climatique avec un hiver qui ressemble à un printemps, il est difficile de ne pas se dire que quelque chose ne tourne pas rond. Canicule, sécheresse, inondation, manque d'eau, migration climatique, les experts nous disent que c'est là notre avenir et pourtant nous avons toujours du mal à nous en convaincre. Certains parlent même d'une nouvelle ère géologique, nous aurions tellement maltraité la Terre que son écorce, si l'on peut dire, aurait muté. On appelle ça l'anthropocène. Explication. Voilà pour cette émission ce matin, Vivante Église, crise climatique, ce qu'il faut savoir. Je reçois Jean-Michel Soubérou, vous êtes directeur adjoint scientifique chez Météo France, bonjour.
Oui, bonjour.
Catherine Jandel, vous êtes directrice de recherche en océanographie et climatologie au CNRS et notamment spécialiste de l'anthropocène, bonjour.
Bonjour.
Et puis va nous rejoindre dans un instant Elisabeth Toutu-Picard qui est adjointe au maire de Toulouse et entre autres en charge de la coordination de la politique de développement durable pour Toulouse et Toulouse Métropole, si je ne me trompe pas. Alors, on va commencer, la crise climatique, on en parle, mais j'imagine que vous êtes habitué, en fait, il faut faire du rabâchage, il faut éduquer, rééduquer, parce que, comme je le disais peut-être en introduction, avant qu'on rentre dans le détail, c'est vrai qu'on en voit, en fait, quelques effets, mais pas beaucoup, et du coup, on a peut-être du mal, en fait, à transformer nos modes de vie, à accepter certaines frustrations, parce que c'est toujours, ça paraît toujours être de la fiction. Est-ce que vous, qui probablement passer votre temps à rabâcher ce genre de choses, c'est votre sentiment aussi.
Oui, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie sur cette question du climat. Et d'abord, peut-être il y a une difficulté pour l'homme d'appréhender ce qu'est le climat. On est plus habitué à la météorologie, le temps qu'il fait. Donc vous avez parlé du temps de cet hiver. Et vous avez dit que l'hiver...
Alors c'est climat ou météorologie là, c'est...
Voilà, donc là on est dans la météorologie quand on parle du temps de l'hiver. Vous avez dit qu'il fait très doux. On aurait fait cette émission au mois de janvier, vous auriez dit qu'il fait très froid. Voilà, et par contre donc le climat c'est le temps long. Et on a plus de mal à savoir, de comparer donc les étés qu'on avait dans les années 80 par rapport aux étés qu'on a dans les années 2000. Voilà. Et donc c'est ça, cette question, la difficulté du climat, c'est le temps long. Et autre question du climat, c'est que c'est pas uniquement les précipitations et les températures, c'est tout un système climatique, on appelle ça le système Terre, et donc l'atmosphère, elle est en relation, elle est en interaction avec...
Le système Terre, c'est-à-dire...
Système Terre, c'est-à-dire c'est l'ensemble finalement des composantes du système climatique, et donc ça intègre... la partie donc de l'hydrosphère, les océans qui sont en relation avec l'atmosphère, donc mais aussi donc ce qui relève de la cryosphère. La cryosphère c'est tout ce qui relève des glaces, donc la banquise, donc les glaciers continentaux, et puis également bien sûr la biosphère, donc tout ce qui relève de la végétation. Et c'est tout ça qui est dans l'enjeu du système climatique qui va interagir.
Et est-ce que de fait, vous avez, avant que vous nous expliquiez plus en détail, vous avez l'impression, vous êtes face à cette difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à toucher du doigt en fait cette mutation climatique.
Eh bien, en tout cas, donc l'enjeu, c'est d'arriver à comprendre comment tout ça évolue, interagit et est en train et va continuer d'évoluer dans les décennies à venir. Donc c'est ça cette difficulté, c'est que le spectre, il est très très large.
Alors, heureusement, vous êtes là pour nous aider, et pardon pour nos invités, parce que c'est vrai que c'est des fins connaisseurs, mais pour nous, c'est important de réentendre ça. La première chose, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, on entend souvent parler du réchauffement climatique, un certain nombre de personnes aujourd'hui ont compris à peu près ce que c'était que l'effet de serre. Si vous deviez nous réexpliquer brièvement ce qui est en jeu et ce qui se passe, qu'est-ce que vous nous diriez?
Alors d'abord, c'est que l'effet de serre, il est nécessaire à la vie sur la planète. Si la vie s'est développée sur la Terre, c'est parce qu'il y avait un effet de serre, et cet effet de serre, il est lié donc aux propriétés de certains gaz, comme le gaz carbonique, qui capture finalement donc la chaleur qui a été réémise par la Terre une fois reçue du Soleil. Mais ensuite, donc... dans les gaz à effet de serre, donc il y en a un qui a l'effet le plus important, c'est l'eau par exemple, hein, H2O, mais par contre donc lui il n'est pas stocké dans l'atmosphère, et donc la question du changement climatique, c'est la question donc de gaz à effet de serre qui vont augmenter donc qui vont s'ajouter dans la dans l'atmosphère et qui vont progressivement donc provoquer cette élévation des températures. Et donc celui qui est en cause particulièrement, donc c'est le gaz carbonique et la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, elle a augmenté d'environ 40% depuis l'ère pré-industrielle et c'est
c'est-à-dire depuis quoi, le milieu
depuis 1850 à peu près. Donc 40%, on est aujourd'hui à 400 parties par million, là où on était à peu près à 250. Et voilà. Et donc c'est... alors, il y a d'autres gaz à effet de serre qui ont des effets très importants, comme le méthane, mais on peut simplifier et, en parlant du gaz carbonique. Et voilà. Et donc aujourd'hui, quand on regarde les enregistrements dans les glaces de l'Antarctique, le niveau atteint par la concentration des gaz à effet de serre, c'est un niveau inédit depuis 800 000 ans. Voilà, donc si vous voulez avoir juste ce chiffre-là, moi j'aime bien, c'est de dire, voilà, la situation, juste du point de vue de ces gaz à
effet de serre. Alors, pardon, inédit depuis 800 000 ans, ça veut dire que...
Ça veut dire que dans les...
Il y a 800 000 ans, il y avait eu le même phénomène.
Non, ça veut dire que dans aucune de nos carottes de glace, on retrouve une telle concentration de gaz à effet de serre. C'est inédit.
Voilà. Alors, donc, évidemment, on lit ça avec la révolution industrielle. Quels sont les différents... est-ce qu'il y a d'autres gaz? Vous avez parlé du méthane, par exemple, parce que moi, de manière très grossière, j'avais compris que le problème, c'était à la fois la révolution industrielle, enfin, l'émission de CO2, c'est bien ça, hein.
Oui.
Et en même temps, c'était aussi le méthane, ça serait la consommation de viande, en fait, et du coup, comment dire, des bétails qui seraient... que la Terre ne pourrait pas supporter d'une certaine manière. Alors, quelle est la part... Je sais que ça ne fait pas toujours plaisir aux agriculteurs ou aux éleveurs quand on leur dit ça. Est-ce que, de fait, c'est avéré?
Oui, c'est avéré qu'il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont liés aux activités, sûrement aux activités humaines. Alors, donc, après, il y a un vrai exercice scientifique de vérifier quelle est l'origine. Parce qu'on est sur une chimie très complexe de l'atmosphère. Hein. Mais toujours est-il à ce stade-là qu'on a bien d'autres gaz à effet de serre qui viennent se cumuler les effets du CO2. Donc le CO2 est le gaz à effet de serre qui est la part principale. Mais il y en a d'autres à regarder. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur le CO2 et oublier le méthane et son origine. Donc comme vous signalez, donc, une origine agricole probable.
Alors, les conséquences, n'hésitez pas à intervenir, même si c'est surtout Monsieur Soubirous qui a la main pour ce début d'émission. Oui, Catherine Jordel.
En agriculture, on peut faire haro sol élevage, mais c'est un petit peu rapide. Il y a aussi, par exemple, les engrais azotés qui dégagent, lorsqu'ils sont épandus, un gaz, le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre extrêmement puissants. Et aujourd'hui, la déforestation de grandes surfaces arborées, par exemple en Amazonie, pour transformer au Brésil et dans ces pays-là par des agricultures intensives extrêmement dépendantes des engrais, génère des sources de gaz à effet de serre extrêmement, vraiment importantes. Et en plus, on retire la forêt qui, elle, soustrait du gaz carbonique. Donc, c'est pas que l'élevage, c'est tout un système.
Sur les conséquences, alors maintenant si on doit parler des conséquences, c'est pareil, redresser un peu un panorama. J'ai lu qu'en fait les températures, donc qui dit réchauffement climatique dit augmentation de température, évidemment, n'auraient jamais été élevées sur Terre depuis 1300 ans. Alors vous, qu'est-ce que vous nous direz sur ce sujet?
Oui, bah écoutez, là c'est les résultats du GIEC, hein, c'est le dernier rapport du GIEC, donc c'est la synthèse de la communauté scientifique. Hein, donc je pense que effectivement,
peut-être vous pouvez rappeler de deux mots ce que c'est que le GIEC, voilà, parce que certains, il y a encore des climato-sceptiques qui...
Ben c'est un groupement donc des différents donc c'est pas le GIEC, c'est une synthèse des travaux scientifiques qui sont publiés sur l'ensemble de la planète, hein, donc c'est pas un groupe de recherche lui-même, hein, donc c'est un groupe donc de scientifiques qui vont faire des synthèses de tout ce qui a été publié sur ce sujet-là, et donc c'est l'état de la connaissance.
Voilà, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC.
Voilà.
Donc le réchauffement climatique.
Donc 0,85 degrés, voilà, c'est le résultat donc, qui a été publié. 0,85 degrés d'élévation de la température sur la planète donc, depuis 1880 et 2012. Bon, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction sur climat et météorologie.
Ça paraît
peu, mais c'est en fait énorme. Voilà.
C'est-à-dire comparativement, en général, quoi, les températures augmentent quoi de...
Mais généralement, les températures, elles augmentent pas. S'il n'y avait pas d'autres causes qu'un effet de serre additionnel. Donc elles ne devraient pas augmenter. Et là, elles augmentent. Voilà. Et 0,85, c'est déjà, ben, on le voit, donc ça provoque d'autres effets. C'est une élévation de la température de l'air, mais oui, c'est aussi une température de la température
vu
de l'océan.
Vu de loin, quand on n'est pas un spécialiste, 0,85, on se dit que c'est pas énorme. Donc,
D'abord, on est sur, évidemment, donc, un phénomène donc, qui est déjà sensible. Après, la question, ça, on va le voir, c'est aussi quel est l'avenir dans les prochaines décennies face à quelque chose qui semble quand même alors s'emballer ou du moins avoir des tendances qui sont très fortes depuis maintenant les 40 dernières années, on va dire.
Alors juste voilà. Les premières conséquences, parce que donc, je vous dis, vu de loin, on se dit, bon, bah, un degré, on va pas, enfin,
oui, mais
on
les
va
conséquences,
pas chipoter pour ça, mais
voilà.
Les conséquences
écoutez,
sont déjà énormes.
Il me semble que les conséquences, elles se multiplient, et donc il suffit de le voir, de suivre un petit peu l'actualité médiatique. Et donc, des conséquences, c'est donc l'élévation de la température de l'océan également. Hein. Et cette élévation de la température de l'océan, c'est aussi l'élévation du niveau de la mer, donc 20 cm, enfin 19 cm. Donc là aussi, on peut dire...
Depuis 19... la fin du 19e siècle aussi.
Voilà aussi, oui. Et donc, ça paraît peut-être assez peu, mais ça commence à être assez sensible. Et donc, cette élévation, c'est aussi donc, des territoires qui sont menacés, parce qu'on a des îles, notamment des îles sur l'océan Indien, sur la planète, des îles dans l'océan Pacifique, où des fois, le niveau maximum de hauteur de l'île, c'est 1 mètre. Donc, on a le cas des Maldives, et donc avec des territoires qui sont sur le point de disparaître du fait de cette élévation du niveau de l'océan.
Oui, Madame Totopica.
Oui, il me semblait, oui, bonjour. Il me semblait que un degré, enfin presque un degré, c'était une moyenne en plus à la surface de la planète.
Oui,
c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il fait beaucoup plus chaud. Et pour ce qui est de notre paysage sur la métropole toulousaine, il me semble que nous avions discuté de cette question et que vous m'aviez signalé que un degré de température supplémentaire, c'était une migration des cultures vers le nord de 150 km. Donc, il ne faut pas minimiser parce que, effectivement, on se dit un degré, c'est après tout, ce sera des hivers beaucoup plus doux et puis en été, ça sera encore plus agréable. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Et en plus, il y a des variations. À la surface de la planète et des variations ne fût-ce que par région. En France, on sait que notre région sera particulièrement impactée et que ce ne sera pas un degré. Alors d'après les cartographies d'accord. que vous
donc là,
avez...
je ne parle pas du futur, hein, je parle du présent.
Du alors, présent,
on a
c'est
déjà
ça.
Un degré.
Voilà,
et après, donc, on va rajouter. De toute manière, il y a aussi des choses qui...
Et c'est parti pour augmenter.
Voilà. C'est parti pour augmenter parce que le système a une inertie. Donc aujourd'hui, il faut prendre des décisions pour éviter d'aller vers une catastrophe à la fin du siècle. Mais de toute manière, même si on arrivait à se passer complètement des émissions de
gaz à effet de serre... La machine est lancée,
la machine est lancée, elle a une inertie d'une trentaine d'années. Donc c'est la question de... Il faut atténuer, réduire nos émissions, mais il faut aussi s'adapter. Donc c'est des discours que nous avons avec Toulouse Métropole. Et parce que de toute manière... Donc, c'est que l'augmentation de 1 degré supplémentaire, donc, elle est inévitable aujourd'hui, et donc il faudra aussi apprendre à vivre avec.
Pardon, alors peut-être, comme le temps avance, avant qu'on parle peut-être de, comment dire, de quelques illustrations, j'allais dire, locales, enfin, Toulouse et Occitanie, est-ce que vous pouvez donner quelques réponses aux principaux arguments qu'on entend de temps à autre encore, des climato-sceptiques? Le premier, c'est que, vous me disiez en préparant cette émission, qu'en fait, c'était un peu, aujourd'hui, nul et non avenu, mais d'aucuns parlent d'une pause. C'est-à-dire qu'il y aurait eu, pendant quelques années, une pause.
Donc, c'est pour ça que je vous ai fait cette introduction sur le climat, le temps long, parce que de regarder sur une année particulière, de dire, par exemple, qu'il y a une année qui a été froide, et donc, sur ce, qu'il n'y aurait pas de changement climatique, ça n'a pas de sens, puisque, donc, on fait du climat, il faut regarder des moyennes longues, et ce qu'a montré les travaux du GIEC, c'est que toutes les décennies ont été plus chaudes que les précédentes, enfin les trois dernières décennies ont été plus chaudes que les précédentes depuis 1880. Donc il faut regarder le temps long. Après donc, dans le doute, le climato-scepticisme, ça peut être la question du doute, et le doute en science...
Et aussi sur les causes.
Alors, je vais y venir, mais juste sur le doute et de dire et de l'exigence de la traçabilité des travaux des climatologues. Et donc ça, c'est, je vais positiver. Je vais dire ça, c'est bien. Les climatologues, les scientifiques doivent avoir des travaux irréprochables. Et donc, et chaque fois qu'on nous incite à nous améliorer, c'est une bonne chose. Donc ce point de vue-là. Ensuite, donc, la question... Ensuite, il faut que le doute soit constructif et qu'il nous permette d'avancer. Et donc, là, après, on peut avoir aussi un regard différent sur les approches du climato-scepticisme. La question du... Aujourd'hui, donc, c'est plus... Je crois qu'il est reconnu que la température augmente sur la planète. La question, c'est de savoir si l'origine, elle est humaine ou pas. Là aussi, je crois que c'était la question pour l'exercice précédent.
Donc, on parle de l'activité solaire qui aurait évolué.
C'est... Donc, pour avoir une réponse à cette question-là, c'est difficile. On met en œuvre des modèles climatiques, et on les met en œuvre depuis 1850, et puis donc on prend en compte toutes les variations de l'activité solaire, qui sont connues, toute l'activité volcanique aussi, qui peut avoir des effets très importants, mais sur des périodes courtes. Et ensuite, on prend en compte l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Il faut absolument... dans les modèles climatiques, prendre en compte l'augmentation actuelle des concentrations de gaz à effet de serre pour arriver à reconstruire le climat actuel. Donc aujourd'hui, le GIEC dit 95% de certitude. On peut dire qu'on est sûr maintenant que la cause du réchauffement climatique, elle est humaine.
Dernière question avant qu'on fasse une première pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations pour Toulouse et l'Occitanie qui permettraient de toucher du doigt ce réchauffement climatique? On pense évidemment aux glaciers dans les Pyrénées, mais tout le monde n'est pas né au début du siècle. Donc,
voilà, par contre, il y a des photos. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que pour le glacier Dossou, donc on a une photo en 1911 et on a une photo en 2011. Et donc, on voit que le glacier, il a perdu plus de la moitié de sa surface. À l'échelle des Pyrénées, c'est 85% de la surface des glaciers qui ont disparu.
Depuis
le début du XXe siècle.
85%.
85%. Et donc, les projections nous disent qu'en milieu du XXIe siècle, les glaciers auront disparu. Donc, c'est quelque chose de très concret, je pense, pour l'Occitanie.
Milieu du XXIe siècle, c'est-à-dire en 2050, il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées.
En 2050, il n'y aura plus de glaciers véritables dans les Pyrénées. Il restera sûrement encore quelques petites plaques de glace, mais on ne pourra plus parler de glaciers.
Autre conséquence, peut-être l'eau, parce que ceux qui habitent Toulouse et puis probablement d'autres agglomérations, est-ce que vous avez d'autres illustrations, en tout cas celle-là?
Donc le nombre de sécheresses, des événements de sécheresse qui viennent à répétition depuis les années 90, je pense que c'est assez évident sur la région de Toulouse, notamment avec des problèmes de fissures sur les bâtiments. Je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de dégâts qui ont été observés. Alors ça nous renvoie aussi peut-être sur d'autres effets, des fois la façon de construire ou la façon de vivre, mais là en tout cas c'est bien un effet visible. Si on parle de l'Occitanie, moi je voudrais aussi parler du littoral, du littoral languedocien, avec des problématiques sur les plages et des difficultés donc à maintenir le sable sur la plage, parce que le niveau de la Méditerranée augmente très légèrement, et ça amène donc une érosion déjà sensible du littoral, et ça serait encore plus vrai sur le littoral
Vous dites que chaque année, on rajoute du sable, c'est ça?
Mais dans beaucoup de plages, oui, chaque année. Alors, c'est pas uniquement dû au fait de l'élévation au niveau de la mer. Il y a aussi des problématiques des sédiments qui sont portés par le Rhône qui ont diminué. Mais oui, c'est un effet déjà sensible.
Catherine Jandel.
Oui, on a dit qu'on parlait pas tellement de projections dans le futur, mais en fait, on évalue qu'il faudra, à terme, d'ici 2030-2050, déménager, faire bouger de l'ordre de 100 000 logements sur le littoral languedocien. À cause de la montée du niveau de la mer.
Parce que d'ici quel horizon?
D'ici 2050. Donc c'est demain. Donc c'est demain. Ouais.
Voilà, donc cette émission Vivante Église ce matin sur la crise climatique, ce qu'il faut savoir. Pour les auditeurs qui se demanderaient ce que ça vient faire une telle émission dans l'émission Vivante Église, je rappelle que le vendredi, on s'essaye autant qu'on peut à des sujets grand public pour montrer aussi que voilà, l'esprit souffle dans le monde, et entre autres sur cette crise climatique. C'est vrai qu'il y a un enjeu important, et on interrogera nos invités à la fin sur les causes de leur engagement. On fait une première pause musicale.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses,
oh, ça, citoyen,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Aux arbres citoyens, quelques baffes à prendre.
la veille et pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses,
ce matin, donc, cette émission Vivante Église sur la crise climatique, ce qu'il faut savoir, avec en plateau Jean-Michel Soubirous, qui est directeur adjoint scientifique chez Météo France, Catherine Jandel, directrice de recherche en océanographie et climatologie au CNRS et spécialiste entre autres de l'Anthropocène, et Elisabeth Totu-Picard, qui est donc adjointe au maire de Toulouse et qui est présidente d'une commission pour Toulouse Métropole, énergie, développement durable et
environnement.
Et environnement, voilà. Alors, dans cette deuxième partie, je voulais qu'on parle un peu de l'Anthropocène, parce que quand on a croisé Madame Totu-Picard il y a quelques mois dans les studios de Radio Présence, elle nous a dit qu'on était rentré dans une nouvelle ère géologique. Alors nous, on a commencé à ouvrir des grands yeux en se disant, mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette histoire. Et donc, d'une manière très grossière et peut-être un peu enfantine, je l'ai résumé dans ma tête en me disant, voilà, en fait, on a fait tellement de mal à la Terre, c'est ce que disais en introduction, c'est comme si l'écorce, en fait, avait changé ou qu'elle mutait. Alors, qu'est-ce que c'est, Catherine Jandel, que cette anthropocène ?
Oui, alors vous avez partiellement raison. En fait, déjà pour parler, avant de parler anthropocène, je vais juste rappeler ce que sont les âges géologiques pour les géologues. Donc, la Terre, depuis 4,6 milliards d'années, depuis qu'elle existe, elle a subi des crises environnementales fréquentes, majeures, fréquentes à l'échelle géologique. Hein, 10 millions d'années pour les géologues, c'est pas beaucoup. Donc, elle a eu des crises comme ça, et ces crises sont enregistrées comme dans des archives, en fait, dans les sédiments, dans les roches. Et cela permet aux géologues de définir des époques qui ont des noms différents et qui conduisent à cette fameuse carte des âges géologiques que l'on voit à peu près dans toutes les salles de classe, qui est le grand livre de la Terre. En fait, c'est un livre qui décrit tous les événements. Pour illustrer ça très concrètement, à la fin de l'ère secondaire, donc le Crétacé, on a eu un grand événement de refroidissement qui a conduit à l'extinction des dinosaures. Il y a un enregistrement dans les couches géologiques de ce grand événement, et on est passé dans une autre époque géologique. En l'occurrence, on a changé d'ère. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Alors, je fais une précision, ce qui est assez fascinant, alors je me trompe peut-être, hein, mais c'est qu'en fait, on voit cette histoire de la Terre à l'intérieur de laquelle, en fait, l'homme n'arrive qu'à la toute fin, d'une certaine manière.
Dans les dernières secondes, oui.
Voilà, c'est ça.
Si la Terre était une horloge, sur 24 heures, on arrive dans les deux dernières minutes.
À la fin de la journée, bien sûr.
Alors que, donc, ça fait quand même pas longtemps qu'on est là, mais justement, la question posée par le mot anthropocène, qui a été proposée par un chimiste de l'atmosphère en 2000, en disant ça y est, l'homme est une force environnementale violente et qui a tellement déjà agi sur la planète que on peut considérer qu'on a changé d'époque géologique.
C'est Paul Joseph Crutzen, c'est ça, non?
C'est Crutzen,
voilà,
oui, c'est
prix
ça.
Nobel quand même de chimie.
Prix hein. Nobel de chimie, oui, mais pas géologue.
Oui.
Voilà. Et donc ça, c'est quand même important parce que du coup, ce mot anthropocène, effectivement, on le retrouve dans les médias, on le retrouve un peu sur toutes les lèvres et il faut lui donner une substance. C'est important. Alors déjà, les géologues ont dit, nous, c'est notre métier, en particulier les spécialistes de la stratigraphie, c'est-à-dire les gens qui étudient les sédiments et la façon dont ils enregistrent la mémoire de la Terre. Donc, ils ont commis une commission internationale, un groupe de travail de 35 personnes, dont je fais partie, pour réfléchir à est-ce que, premièrement, on est bien rentré dans une époque géologique dans laquelle, finalement, la force majeure agissante, c'est l'activité humaine. Deuxièmement, quand a-t-elle commencé? Et quel est le marqueur? Parce que toute époque géologique, il faut
un marqueur.
Ben voilà, il faut un marqueur. Donc, revenons à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Là, c'est un changement d'ère, hein, parce qu'on dit aussi l'ère anthropocène, mais là, je veux revenir là-dessus. Les aires, c'est primaire, secondaire, tertiaire, et en ce moment, on est dans le quaternaire.
Et il y a les époques, après.
Et en dessous, il y a les époques, les âges, etc. Et n'ayons pas la prétention de penser qu'on est entré dans une ère, parce que quand même, ça sera encore plus grave comme bouleversement. Pour l'instant, on est plutôt sur la notion d'époque. Et donc, en fait, prenons la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Il y a un niveau très connu, qui est le niveau d'iridium, parce que la cause est très probablement... Il y en aurait deux. Un grand épanchement volcanique, à l'époque, c'était naturel, et la Terre aurait été percutée par un astéroïde assez violemment et qui a lâché une couche d'iridium, qui est un élément chimique très peu abondant sur Terre, mais qu'on trouve justement dans les météorites et que l'on retrouve dans toutes les couches sédimentaires de cette période-là. Là, quand on peut les
observer. C'est ce que vous appelez le marqueur.
C'est ce qu'on appelle le marqueur. On appelle ça le clou d'or, même en géologie, ici, en France. Et le Golden Spike.
Quel serait le clou d'or de l'ère anthropocène?
On est en train de le définir. C'est-à-dire qu'en gros...
C'est le plastique ou...
Alors, il y a une liste considérable, parce que les travaux du groupe dont je fais partie ont conduit à un colloque international à la ville du Cap, en Afrique du Sud, à l'automne dernier, où déjà, on a convergé sur « ça serait une époque ». Et elle aurait démarré, parce que le démarrage est important, au milieu du XXe siècle. Et ce n'était pas simple. Cette question du démarrage, parce qu'il y en a qui disaient...
J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs hypothèses.
Voilà, on aurait démarré, pourquoi pas au moment du développement de l'agriculture, 3000 ans avant Jésus-Christ. On aurait démarré au moment du début de l'ère industrielle en 1850, parce que c'est là qu'on a commencé à vraiment envoyer du carbone ce qu'on appelle les petites, pas les particules fines, un peu plus grosses, mais qu'on retrouve aussi dans les sédiments géologiques. Ou à quel moment a-t-on démarré? Et en fait... après la Deuxième Guerre mondiale, les Trente Glorieuses, c'est là que toute l'activité humaine s'est considérablement accélérée. Dans notre jargon, on appelle ça d'ailleurs la grande accélération. Mais tout, la consommation, la production, donc l'utilisation de matériaux enfouis dans la terre, naturellement, comme l'aluminium par exemple, pour en faire des bâtiments, des feuilles de papier aluminium qui emballent les aliments dans les réfrigérateurs, etc. L'aluminium, au départ, il est dans la terre. Et nous, on l'extrait, on le transforme. Quand je dis nous, c'est l'activité humaine. Pareil pour les plastiques. Pareil pour tout ce qui est combustible. Les combustibles fossiles, charbon, pétrole, qui ont mis des millions d'années à être enregistrés, on s'en sert aujourd'hui pour faire rouler nos voitures, chauffer, etc. On revient sur les émissions de gaz à effet de serre, la transformation du climat.
Alors il y a juste quelque chose où j'ai peut-être pas tout à fait saisi, c'est que là en fait vous parlez en fait de tous ces matériaux qu'on utilise, donc on extrait du sol. On a bien compris en fait l'incidence que ça peut avoir sur le climat, mais à quel moment en fait ça, on en trouve trace en fait dans les roches? C'est-à-dire que, je sais pas, tout ça retombe et finit par imbiber les roches, pardon d'avoir des questions aussi basiques.
Oui, non, c'est tout à fait juste. Vous pouvez imaginer que certaines villes qui sont devenues invivables pour des tas de raisons, et en particulier climatiques, quand les gens les abandonnent, il reste des traces derrière eux. Donc déjà, c'est ça. Alors, on cherche...
Donc, y compris dans le sol, c'est ça ?
Bien sûr, y compris dans le sol. Le béton armé, il ne va pas se démolir, il ne va pas s'éroder très, très rapidement. Au contraire, enfin, quand on connaît, par exemple, la ceinture de blocos qui entoure la côte française suite à la Deuxième Guerre mondiale, il se couvre de sédiments, mais le blocos, il reste. Donc, ce sont des traces humaines. Donc, tout est possible. On cherche justement
la
trace.
Même chose pour le plastique, le pétrole, etc.
Alors, le plastique, il y a un moment où il finira toujours par se dégrader. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est que certains plastiques sont chauffés très très fort, pour des raisons... et ils vont créer des nouveaux produits qui sont très très difficiles à éroder. Donc on regarde ça. Mais justement, je vais venir au marqueur que pour l'instant on a trouvé qui est assez universel et qui va surprendre, c'est que lorsque après...
Moi ça m'a surpris en tout cas.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a en 45 fait le premier test nucléaire atmosphérique, puis les deux bombes Hiroshima-Nagasaki, puis dans la foulée jusqu'au milieu des années 60, tous les essais nucléaires atmosphériques à peu près tous les pays du monde développés, cela a rejeté dans l'atmosphère on peut appeler ça des particules, des poussières radioactives. Ces poussières radioactives, l'atmosphère, elle s'homogénise en 2-3 ans. Et donc, elles sont réparties partout
l'atmosphère
sur la planète.
De toute la planète, vous voulez dire?
De toute la planète.
Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire...
On les trouve partout.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a trace, en fait, sur la planète, des premiers essais atomiques.
Ouais, jusque sur l'Antarctique. Donc, en fait, là, on a
C'est-à-dire si vous faites des carottes sur l'Antarctique, en fait, vous voyez la trace des essais atomiques.
Par contre, elles ont un petit problème, c'est que ça finira toujours par se désintégrer. Donc, c'est un point de départ, mais ce n'est pas forcément le bon marqueur. Par contre, on parlait...
Pourquoi, juste ? Excusez-moi.
Bah, parce que si elle se... dans 100 000 ans, qui est l'échelle géologique, je vous... Moi, je suis dans cette discussion, travaille sur le million d'années, vous comprenez ?
Moi, je travaille un jour après.
Et il y en a qui seront désintégrés. Donc, c'est un marqueur. Bon, en se désintégrant, ils font des descendants, mais quand même, à un moment donné, on perd un peu cette trace radioactive puisqu'ils sont radioactifs, donc ce sont des chronomètres qui se désintègrent. Un marqueur extrêmement étudié de près en ce moment, c'est l'extinction de la biodiversité due aux activités humaines. Alors, quelles activités humaines?
Vous aviez des chiffres là-dessus, vous me citiez
De l'ordre de... Après, faut qu'on fasse attention, parce que les 80%, c'est pas la totalité de la biodiversité, c'est plutôt sur les mammifères, sur un certain type d'espèces, les vertébrés, etc. Et il y a toute une partie de la biodiversité, on la connaît pas encore. Donc, en fait, les spécialistes sont en train de faire des bilans là-dessus.
D'accord, mais aussi, si on doit donner des chiffres dans ces cas-là un peu globaux, ça serait quoi alors,
Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est des choses de l'ordre de 80%, c'est énorme. Hein,
pour une partie, du coup, de la biodiversité, ce serait 80% qui aurait disparu en un siècle.
Non, enfin, ou qui va disparaître, qui est en train de disparaître. Donc, c'est pas quelque chose de. Tout n'est pas encore.
Donc, quand vous dites 80%, c'est quoi? C'est tous les insectes?
Non, les singes. J'ai l'exemple des singes. Dans 50 ans, si on ne fait rien, il faut toujours revenir sur la notion de si on ne fait rien, les singes auront disparu. Les singes. La totalité des singes.
La totalité des singes sur Terre.
Sauf ceux dans les eaux. Donc voilà ça.
Et en plus, Monsieur Soubirous, vous nous disiez qu'en fait, il y avait entre guillemets, comment dire, le train a été lancé et pour le freiner, il fallait de toute façon une trentaine d'années, c'est
ça ? Oui. Mais enfin bon, après, ça relève pas que des actions d'atténuation. Il y a des actions aussi de prise de conscience, de protéger la forêt, parce que là, c'est la destruction des milieux. C'est pas uniquement le climat. Donc on voit qu'il y a l'action de l'homme. C'est pas que les émissions de gaz à effet de serre. C'est plus compliqué que ça.
Non, c'est plus compliqué. Typiquement, en 200 ans, la population a été multipliée à peu près par 7, et les émissions de carburant par 50, mais cette activité de construction, de morcellement, de fabriquer des autoroutes sur lesquelles personne circule, etc., c'est la première cause. Tous les spécialistes de la biodiversité s'accordent pour dire que ce que l'on appelle la fragmentation du territoire, tous les 7 ans, un département français disparaît sous le béton. Mais c'est ça, la première, dans notre pays, mais dans beaucoup de pays, c'est la première cause de l'extinction de la biodiversité. La deuxième chose, c'est surpêche.
C'est juste de construire des routes, des ronds-points,
etc. Ça empêche les espèces vivantes non humaines qui ont aussi besoin de se déplacer. De se déplacer pour se reproduire, pour se croiser.
C'est aussi l'espace qu'on utilise pour vivre nous-mêmes. Hein.
Voilà.
Par exemple, donc il y avait des chiffres là sur la région, le département de l'Hérault, donc où le nombre de mètres carrés par habitant. Il est passé, dans les années 60, c'était 200 mètres carrés par habitant. Aujourd'hui, on est passé à 350. 350 mètres carrés par habitant, alors que la population, elle a augmenté de manière sensible. Je veux dire, des fois, c'est...
350 mètres carrés habitables, c'est ça que vous voulez dire?
Non, non, 350 mètres carrés qu'on utilise chacun pour nous, pour vivre, donc avec notre jardin et plus la partie habitée. Voilà. Mais si on a besoin d'autant d'espace, eh bien forcément, donc, c'est autant d'espace en moins pour la biodiversité.
Voilà. Alors Catherine Jandel, donc en fait ce qu'on a compris c'est que donc la conséquence de ce réchauffement climatique en fait on en trouve des traces aujourd'hui en fait dans la terre en fait tout simplement, donc c'est cette nouvelle ère géologique que vous venez de décrire. Est-ce que le fait même que la terre en fait enfin son écorce soit marquée, est-ce que ça peut avoir des incidences en elle-même, c'est-à-dire est-ce que je sais pas le fait que la roche soit différente, qu'on trouve des traces
aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences. On est plus en train d'asseoir scientifiquement le nom de cette nouvelle époque. Donc déjà, est-ce que c'est un âge, une ère, ça serait une époque géologique, on sortirait de l'Holocène qui est depuis... C'est l'âge géologique dans lequel nous sommes, l'époque géologique, pardon, dans laquelle nous sommes.
Et dans laquelle l'homme est né, non, c'est ça? L'homme est apparu?
Ah non, ah bon, d'accord, il était là bien avant. Non, c'est depuis la sortie du dernier maximum glaciaire, c'est depuis que notre climat est stable, celui qu'on connaît aujourd'hui, sans l'action de l'homme. Ça fait à peu près 8000 ans qu'à la sortie de la dernière grande glaciation, la circulation qu'on connaît atmosphérique et océanique, ce qui s'est installé, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, on changerait, on quitterait l'Holocène pour rentrer dans l'Anthropocène depuis le milieu du 20e siècle à peu près, avec un marqueur sur lequel on est encore en train de travailler pour que les géologues des années futures, ou même les géologues d'aujourd'hui, puissent parler le même langage. Après, le fait de baptiser, moi je tiens quand même à parler de ça très rapidement, ça peut avoir plusieurs conséquences. Reconnaître que l'homme est l'agent, c'est quelque chose qui peut être motivant, mais qui peut être aussi culpabilisant, ou qui peut avoir un effet un petit peu pervers, j'ai tendance à dire, c'est-à-dire que l'homme est plus fort que tout. Et il y a des gens qui ont un peu ça dans la tête. Et donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention sur le plan sociologique, anthropologique, ethnologique, parce que vous avez des sociétés qui vivent sans perturber la planète, encore aujourd'hui, dans pas beaucoup d'endroits, mais il y en a, qui ont compris un système de vie sobre et recyclable et peu perturbatrice. Et c'est surtout l'homo capitaliste, comme on dit chez les historiens, hein, qui est celui qui, avec l'engouement qu'on connaît aujourd'hui de cette société de consommation, est vraiment l'acteur de violent de ce changement. Et donc c'est une prise de conscience essentielle à faire aujourd'hui. C'est pour ça que le mot anthropocène peut être utile à cet égard, mais il faut faire attention.
Alors, on va faire une deuxième pause musicale, en tout cas, et puis nous, pour l'instant, on va éteindre les lumières, parce qu'on finit par culpabiliser, du coup, d'allumer le courant. On va faire une deuxième pause musicale, et puis après, avec Elisabeth Toutu-Picard, on verra un peu les incidences que ça peut avoir, ne serait-ce que pour Toulouse et Toulouse Métropole.
Que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins.
Choisir quelle sera votre voie. À Aspect 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, crise climatique, ce qu'il faut savoir, donc avec Jean-Michel Soubirous qui nous a quittés, qui est donc directeur adjoint scientifique chez Météo France, Catherine Jandel, directrice recherche et océanographie et climatologie au CNRS, spécialiste de l'Anthropocène, et donc Elisabeth Toutu-Picard, vous êtes adjointe au maire de Toulouse et vous avez donc en charge, vous êtes aussi, vous présidez une commission pour Toulouse Métropole, énergie... vous allez m'aider.
Environnement, développement durable et énergie.
Voilà, merci beaucoup. Donc vous êtes entre autres, vous avez la responsabilité entre autres donc de, comment dire, de l'application de ce qu'on appelle le plan climat 2020 pour Toulouse et Toulouse Métropole. Peut-être pouvez-vous nous expliquer en fait ce que c'est ce plan et quelles obligations ont un certain nombre d'agglomérations en France.
Oui, alors les démarches de plan climat air énergie territoriale sont des démarches qui sont obligatoires pour les collectivités territoriales qui reçoivent un certain nombre d'habitants, je crois que c'est 50 000 habitants. Donc c'est un exercice auquel nous nous livrons très régulièrement. Nous sommes actuellement en pleine révision de ce plan climat, mais nous continuons sur la lancée de la poursuite d'objectifs. Nous avions construit notre premier plan climat sur la base de ce que nous appelions les 3x20 selon les règles européennes, de 20% de plus de recours aux énergies renouvelables, 20% de moins d'émissions de gaz à effet de serre et moins 20% de consommation énergétique.
À horizon 2020.
Oui, depuis est tombée la loi sur la transition énergétique en 2015 qui a fait monter les objectifs.
À l'accord de Paris, c'est ça ou...
Non, c'était au même moment. Ça s'est tombé à peu près à la même époque, mais l'idée est la même, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des objectifs encore plus ambitieux à l'échelle française pour pouvoir atteindre l'objectif qui a été défini dans le cadre de la COP21, qui est de rester en dessous de la barre des 2 degrés de température supplémentaire à l'échelle de la planète. Donc toutes les collectivités territoriales sont invitées à produire un plan d'action. Comme on sait, le réchauffement climatique va surtout être frappé au niveau des territoires et des régions, sous des formes très diverses en fonction des forces et des faiblesses de chaque région.
Alors, si on doit prendre justement quelques illustrations, commençons par le positif. Augmenter de 20% les énergies propres, qu'est-ce que pour Toulouse Métropole, ça veut dire quoi en fait? Et comment vous essayez de vous y prendre?
Alors, c'est développer le recours aux énergies renouvelables. Nous avons Bon, très précisément sur Toulouse, une centrale de photovoltaïque sur les coteaux de Pêche David. C'est une petite centrale voltaïque, de photovoltaïque qui était au démarrage expérimental. Mais nous allons développer ce recours à l'énergie solaire qui est gratuite et surtout qui est pérenne.
Et donc, chez nous en plus.
Est particulièrement importante. Après, il y a la question du stockage de l'énergie pour les périodes, bien sûr, de nuit. Mais photovoltaïque, nous avons un très gros projet de ferme photovoltaïque dans la zone du Cancéropole, 15 sur 15 hectares, ce qui est un très gros projet. D'autres projets aussi à proximité de l'Institut universitaire du cancer avec des ombrières de parking, photovoltaïque également. Nous avons un projet qui est déjà lancé sur la toiture du marché international d'intérêt national Le Mine. Donc notre objectif, c'est de développer partout où il y a des surfaces.
Donc, surtout le photovoltaïque.
Surtout le photovoltaïque, parce que je me vois mal en train de proposer aux Toulousains des installations d'éoliennes au cœur même de Toulouse. Ce qui, bien sûr, pose problème, parce que par exemple des régions qui ont, comme le Languedoc-Roussillon, des grandes surfaces et beaucoup de vent, ils ont beaucoup plus de facilité pour installer des éoliennes. C'est la nature et les ressources de la nature sont extrêmement différentes et les contraintes sont extrêmement différentes d'une région à l'autre. Alors pour en revenir à Toulouse, donc plein cap sur le photovoltaïque, mais nous avons d'autres sources d'énergie qui ne sont pas forcément renouvelables mais qui sont recyclables, notamment le réseau de chaleur urbain qui est unique en son genre puisque nous arrivons à plus d'une quarantaine de kilomètres de canalisation grâce à l'incinération des ordures ménagères de la SETMI. Nous allons pouvoir faire franchir la Garonne à des canalisations qui vont venir desservir des quartiers entiers, de nouveaux quartiers entiers, avec justement la chaleur qui est dégagée,
la thermie. Les déchets, tout simplement, c'est ça ?
En brûlant les déchets, tout simplement, en récupérant plus exactement la chaleur fatale qui est émise au moment de la combustion des déchets ménagers. Donc voilà nos deux grandes sources de ressources énergétiques. Et également, nous avons un gros projet de méthanisation à partir des boues usées de la centrale, la STEP que nous avons sur Ginestou. Donc autre source également d'énergie renouvelable. Et puis nous avons aussi un peu de géothermie sur Blagnac, où il y a un petit réseau de chaleur à disposition aussi des habitants à partir de la ressource géothermique.
Alors, si on continue donc sur les différents chapitres, moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'il y a ? Tous les Toulousains vont être invités à circuler en vélo ?
Les émissions de gaz à effet de serre sur la métropole toulousaine, d'après les évaluations qu'on a pu faire justement dans le cadre des plans climat, ce sont des données assez intéressantes. Nous savons qu'actuellement, près de 50% de nos émissions de CO2 sont dues à la combustion des moteurs à énergie, à source thermique, c'est-à-dire votre voiture individuelle. Eh bien, chaque fois que vous prenez votre voiture, eh bien, c'est émetteur de CO2. Non seulement ça pollue l'air avec des particules fines qui sont extrêmement irritantes pour les personnes qui sont allergiques, mais également ça contribue au réchauffement climatique. Et quand on sait que 50% des déplacements sur Toulouse Métropole en voiture, donc à combustion thermique, c'est pour effectuer des trajets inférieurs à 3 km, vous voyez que notre marge de progrès est colossale.
Aller faire ses courses, passer chez le boulanger.
Absolument,
etc.,
ça passe par non seulement bien sûr par les infrastructures en transport en commun que la métropole est en train de mettre en place, mais ça demande toujours énormément de temps. Mais ça passe aussi par la prise de conscience que nous sommes tous co-responsables de ce qui se passe sur la qualité de notre environnement. Et puis la deuxième source de gaz à effet de serre, c'est le chauffage des bâtiments. Donc quand on habite dans un appartement qui est, comme l'on dit familièrement, une passoire thermique, et bien on contribue également au réchauffement climatique. Donc là aussi, il y a des espaces info-énergie qui sont mis gratuitement à la disposition des métropolitains pour aller chercher des informations, des conseils pour essayer d'isoler thermiquement son logement et éviter ainsi de participer au réchauffement climatique.
Des espaces info-énergie, c'est-à-dire on se tourne vers l'Amérique
Toulouse. Espaces info-énergie, c'est soit à l'échelle même de la métropole, c'est porté par une association, l'association Solagro, mais ce sont des conseils qui sont donnés gratuitement par des ingénieurs spécialiste justement de l'isolation thermique et puis des consommations énergétiques privées, des particuliers. C'est pour les particuliers et c'est gratuit. Donc j'engage vos auditeurs à se déplacer, se renseigner et ils pourront avoir ainsi tous les conseils. Et quand on sait que 60% des gens qui sont passés par ces espaces info-énergie passent ensuite à l'acte, c'est très réconfortant de savoir que les métropolitains toulousains se prennent aussi en charge et se responsabilisent sur ces questions climatiques.
Alors, dernier volet, c'est la consommation, moins 20% de consommation. Il faut quoi ? Il faut juste changer les habitudes. Comment vous allez faire ? Vous allez envoyer des flyers dans toutes les boîtes aux lettres pour,
bah, c'est tout le problème de comment accompagner la prise de conscience. Voilà, moi je me considère comme une espèce d'éveilleuse de conscience. Comment arriver à faire comprendre à la population que nous sommes tous en fait co-responsables de ce qui se passe en matière de dégradation de notre environnement. Et ça passe justement par des éco-gestes au quotidien, dans les habitudes que nous avons d'éteindre la lumière, de baisser un peu le chauffage, des petites choses qui en fait additionnées les unes aux autres finissent par avoir un gros impact. Et au niveau même de Toulouse Métropole, nous voulons une administration exemplaire et donc nous avons mis aussi en place des logiciels en temps réel qui nous donnent une idée de nos propres consommations énergétiques et nous avons des projets là aussi de remise à niveau de nos installations, de réglage. La plupart du temps, en fait, c'est avec des petits gestes de réglage que nous arrivons à faire beaucoup d'économies, non seulement de consommation énergétique, mais également des économies directes, financières, sur les budgets et de la métropole, et également des particuliers.
Donc c'est pas forcément une transformation en fait, des modes de vie, c'est juste une multitude de petits éco-gestes, c'est ça ? Trier ses déchets, penser à éteindre la lumière, baisser le chauffage, mettre
alors,
un pull, c'est
alors,
ça ?
Si je peux me permettre, je pense que la transformation des modes de consommation est aussi extrêmement importante. Là, vous me posez une question ciblée sur les énergies, je dis comment on peut tous, chacun à la place que nous occupons, contribuer en fait à la réduction de ces consommations. Mais je pense qu'en arrière-plan, et ça a été dit par Madame Jandel, il y a une profonde question de transformation de nos habitudes et de la façon dont nous consommons. Parce que c'est effectivement la surconsommation qui nous a amené non seulement à surconsommer les énergies fossiles, mais également dans la vie de tous les jours. On n'en a plus conscience, mais nous achetons des produits qui viennent de l'autre côté de la planète, alors que nous pourrions consommer localement et enrichir les circuits courts, notamment agricoles. Il y a une prise de conscience en fait générale de la place que nous occupons sur notre planète.
Ne serait-ce que des fleurs, en fait, quand on achète des fleurs, pardon de faire
Par exemple,
elles viennent globalement de Hollande, et pourtant, il y a quand même quelques fleurs qui sont produites localement. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein,
Bon, à la limite, la Hollande n'est pas si loin que ça, mais quand ce sont des produits exotiques, c'est encore autre chose, des fruits exotiques.
Dans la prise de conscience de l'individu, et en particulier du métropolitain toulousain, la question du déplacement est vraiment très très importante, parce que lorsque l'on sait que ce sont les Danois qui sont la population qui roule le plus en vélo en proportion, avec des autoroutes à vélo, des installations cyclistes, etc. Et que c'est une région dans laquelle il pleut, il vente et il neige, beaucoup plus que chez nous. Et que moi qui suis cycliste et qui essaye de convaincre les autres qu'on est en bien meilleure forme quand on prend son vélo pour faire 3 km que sa voiture, en plus c'est prouvé, on respire moins de particules fines quand on respire dans l'air que quand on respire à l'intérieur du véhicule qui est fermé. Donc, et qu'on me répond « Ah oui, mais tu comprends le climat, oui, mais tu comprends, c'est fatigant. » J'ai énormément de mal à comprendre où se trouve la difficulté du Toulousain à enfourcher une petite reine. Et donc, je pense que c'est quand même un axe sur lequel il y a beaucoup de progrès à faire. Cette ville est quasi idéale. Elle le sera encore plus si la circulation était moindre. Donc, en fait, pour que la circulation soit moins dangereuse, c'est qu'il y ait plus de cyclistes et donc plus d'installations. Là, on attend des choses du pouvoir public, évidemment.
Elisabeth Toutu-Picard, le mot de la fin.
En écho à ce que vient de dire Madame Jandel, la métropole investit 6 millions d'euros par an dans les pistes cyclables de la métropole, pour l'entretien de celles qui existent déjà, mais également pour créer de nouvelles pistes. Et j'ajoute une dernière chose, les Danois sont considérés comme le pays, le Danemark est le pays où on est le plus heureux de vivre. sur la planète.
Alors, comme peut-être, quoi, faites du vélo.
Voilà, peut-être, c'est pas la seule raison, mais en tout cas, c'est peut-être...
Ça y contribue.
Merci beaucoup à nos invités d'être venus parler du climat, de cette crise climatique. Voilà, je vous ai pas demandé, en fait, pourquoi vous faisiez tout ça. Il n'y a pas eu de question philosophique. Donc, on vous réinvitera. Peut-être, on aura d'autres occasions. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.